Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le Beaujolais nouveau est arrivé et les producteurs de ce célèbre vin primeur, parfois décrié pour sa qualité, nous annoncent une montée en gamme. Il faudra essayer, mais il faudra peut-être aussi se dépêcher, car il y en aura sans doute moins que les années précédentes. C'est le cas de toutes les régions viticoles françaises et c'est aussi le cas en Italie et en Espagne, les deux autres plus gros producteurs au monde. Tout cela pour cause d'aléas climatiques, gel tardif, sécheresse qui ont frappé l'Europe occidentale cette année. L'Europe est-elle en train de perdre sa place de leader mondial et quelles conséquences des changements climatiques sur le vin? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Yves Lerce, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions climatiques et énergétiques et auteur de Menaces sur le vin, les défis du changement climatique. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Et Philippe Forbrach, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Union de la Sommellerie Française, meilleur sommelier du monde 1992, restaurateur à Paris avec le Bistrot du Sommelier et producteur dans la vallée du Rhône. Alors je le disais, un peu moins de 250 millions d'hectolitres dans le monde, ce sont des chiffres encore provisoires, mais c'est d'ores et déjà la plus faible production mondiale de vin depuis 1961. Alors nous ne présumons pas de l'âge de chacun, mais personne dans ce studio n'avait jamais vu ça. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Yves Lerce ?
C'est une semi-surprise. Vous avez commencé à parler des raisons. Les raisons, c'est effectivement le gel tardif, 24-26 avril, avec des régions entières. Ça a touché le Val-de-Loire, ça a touché la Bourgogne, Chablis, ça a touché dans le Bordelais, ça a touché dans plein d'endroits.
Le Jura.
Ils se sont débrouillés, comme ils pouvaient, mais malgré tout, si. Et puis ça a été suivi de sécheresse, d'où une récolte qui effectivement est très faible.
Philippe Forbrach, vous vous y attendiez, vous saviez avec les aléas climatiques que ce serait dur.
On savait que ça allait être très dur. Ce que tout le monde espérait, c'est qu'il y ait un peu de pluie, notamment parce que la sécheresse est venue, j'allais dire, apporter son coup de grâce au volume de l'année. Et par exemple, moi qui suis producteur, vous le rappelez tout à l'heure, dans le sud de la Vallée du Rhône, sur Châtenay-du-Pape, par exemple, on n'a pas eu une goutte de pluie du printemps jusqu'à la récolte. Donc effectivement, c'est assez dramatique. On a perdu globalement 35% d'une récolte normale, ce qui est quand même assez dur. Et moi, ce qui m'avait marqué cette année, c'est lorsque je suis allé juste à la veille des vendanges goûter les raisins, on goûtait du raisin, il n'y a pas de jus.
Ouais, les raisins étaient
très beaux, bien, pas trop gros, mais jolis. Et quand on les croquait, il y avait un goût concentré, par contre, mais alors, il n'y avait quasiment pas de jus. Donc, effectivement, ça ne peut pas faire beaucoup de volume.
Alors, c'est inquiétant sur le plan économique, sans doute. Est-ce que c'est inquiétant sur le plan de la qualité?
Alors, vous faisiez référence au millésime 61 tout à l'heure. si on se souvient de ce millésime-là aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est un millésime d'une extrême qualité. On fait d'ailleurs référence, notamment pour la France, également un volume de récolte très faible, qui était l'année 1945, et c'était également un très grand millésime. Donc on peut espérer effectivement que la quantité produite, même si elle est à minima, puisse produire effectivement un vin de qualité.
Est-ce que, Yves Lerce, à terme, ces événements climatiques, on en a eu beaucoup dans le monde, hein, mais bon, là, évidemment on parle du vignoble français, est-ce que c'est inquiétant à terme ?
Oui, bien sûr, c'est inquiétant. Mais je crois qu'on parle beaucoup de réchauffement, on parle beaucoup de changement, on devrait parler de dérèglement climatique, parce que ce qui s'est passé, c'est des événements extrêmes. Les gels tardifs, des sécheresses comme ça, pas de pluie dans le sud jusqu'au, je sais plus, 21 septembre, dans certains coins, au nord de Lyon un peu plus, mais vraiment c'est des catastrophes pour les viticulteurs et pour plein de viticulteurs et puis peut-être pour nous aussi. Et ce qu'il faut s'attendre, c'est plusieurs années qui risquent d'être comme ça et les parades sont pas évidentes.
Ouais, j'allais vous poser la question.
Il y a un grand débat aujourd'hui existentiel, même au niveau des appellations de contrôle en France, parce que par exemple, il y a l'interdiction d'arroser chez nous dans les appellations. Ou en tout cas, c'est extrêmement réglementé.
C'est au coup par coup.
Alors que dans certains pays, je pense aux États-Unis par exemple ou en Australie, on ne pourrait même pas imaginer de pas irriguer. Donc il y a du goutte-à-goutte qui existe, il y a d'irrigation qui est organisée. Et exactement, et dans un certain nombre de pays du sud, encore plus au sud que nous. On va malheureusement y venir un peu, c'est vrai que ça transforme un peu l'effet terroir, donc c'est pas fun sur cet aspect-là. Mais par contre, si on veut sauvegarder l'outil de travail, c'est-à-dire le végétal. Le nombre de pieds qui meurent chaque année pour différentes maladies, mais dont c'est accentué, ces maladies, par la sécheresse. C'est, on en est aujourd'hui dans certaines exploitations à ce niveau-là. C'est-à-dire que soit on laisse encadrer, bien sûr, l'arrosage, c'est pas...
C'est plus de l'irrigation goutte à goutte,
exactement,
de l'arrosage. Hein,
tout à fait. Et donc, on va dans ce sens-là. Et j'ai discuté récemment avec des viticulteurs qui disaient, mais il y a des moyens qui sont réfléchis aujourd'hui. Par exemple, quand il y a des épisodes dans le sud de la France, comme ces orages Cévenol qui détruisent certains villages, etc. Il y a des systèmes aujourd'hui de récupération de cette eau qui protégerait les villages et qui permettrait de stocker pour ensuite irriguer effectivement les vignes, mais pas que les vignes, hein, l'agriculture de façon générale.
Alors, Yves Lers, vous parliez de dérèglement climatique tout à l'heure.
Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment cette année, c'est vraiment l'illustration de ce dérèglement.
Alors, vous parliez de vous disiez qu'il fallait s'attendre à ce dérèglement dans les années qui viennent. Donc, ça veut dire que c'est pas un accident, ou alors que ces accidents vont être réguliers mais différents chaque année, c'est ça que ça veut dire?
C'est ce qui s'est passé cette année, c'est qu'une partie du changement climatique, hein, c'est pas juste. Il y a aussi toute l'arrivée d'un cortège de bestioles qui était pas prévu. Il y a des maladies, il y a des tas de choses comme ça qui remontent très bien. On le voit avec la pyrale du buis, c'est pas de la vigne, mais ça existe bien. Elle remonte tranquillement. Et là, on a une spécificité européenne sur les trois pays, enfin surtout sur la France et l'Italie. Moins 20% en France, moins 23% en Italie. L'Espagne, ça dépend des coins. La Mancha, bien sûr. Mais la Mancha, elle n'existera plus en 2050. Hein. La Mancha pour le vin, c'est très probable. Le Bordelais,
c'était le plus grand vignoble du monde pendant très longtemps. 400 000 hectares de vignes.
Mais ça reste.
Avec un cépage qui s'appelle l'Airen, qui donne des vins blancs simples, mais qui sont
simples,
surtout
vous dites.
Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ils se boivent rarement seuls. On les distille. C'est là où ils font leur brandy en Espagne.
Le brandy espagnol, absolument. Ouais. Ça veut dire, pour vous qui êtes producteur, Philippe Forbrac, ça veut dire que des événements exceptionnels sont à prévoir chaque année. C'est d'ailleurs dans la nature de la viticulture, hein. Mais on ne peut pas les anticiper. Ils sont, voilà, c'est ça que ça veut dire.
Par définition,
oui, mais ça arrivera plus souvent.
Il y a des chances que ça s'accélère effectivement. Avant, c'était exceptionnel. Une fois par tous les 10 ans, il y avait un problème et on le gérait sur les 9 années suivantes. Mais là, il y a des endroits, je pense en Bourgogne par exemple, Pommard ou Volnay, ils ont eu 3-4 années de dérèglement climatologique sous forme de grêle, de gel, etc. C'est juste inimaginable. Les mêmes parcelles.
En Val-de-Loire, dans le coin de Chinon, j'ai vu un viticulteur il y a pas longtemps, 70% 2 années de suite. On gèle. Il gèle pas. C'est le jardin de la France. C'est un endroit où il fait toujours bon.
C'est compliqué.
Alors, vous avez commencé un petit peu à en parler. Quel vont être l'impact de ces dérèglements climatiques à plus long terme? Vous avez commencé à parler de la Mancha en Espagne. Est-ce qu'il y a des endroits qui ne pourront plus produire de vin, tout simplement?
Il y en a un en France qui est le plus menacé, c'est le Bordelais.
Ah, carrément, donc,
oui. C'est le Bordelais. Les Américains avaient tapé dessus en 2011, je crois, et tout. Et les Français avaient bien réagi en disant, il n'y aura plus de vin dans le Bordelais. Il n'y aura plus de vignobles dans le Bordelais. C'est plus compliqué que ça. Ils travaillent beaucoup sur des cépages alternatifs. Les cépages alternatifs, en particulier au Merlot. Le Merlot, c'est plus de 60% du vin du Bordelais, je crois.
Ouais, ça s'est beaucoup développé, ces dernières décennies.
C'est beaucoup développé parce qu'il donnait bien et tout.
Pour le préciser à nos auditeurs qui sont pas tous forcément au courant de la viticulture, un cépage, c'est, on va dire, une variété
de plantes de vigne.
Une race de raisin, on va dire, une variété de raisin. Voilà, exactement. Il va y avoir alors c'est quand même inquiétant parce que le vignoble bordelais, Philippe Forbrac, c'est la gloire de la France, si je peux dire ça comme ça.
C'est une référence mondiale en matière de viticulture. Alors, il va peut-être pas disparaître, en tout cas, il va se transformer, ça c'est sûr. Avec une évolution dans ses pagements, c'est ce qu'on disait à l'instant. Il y a deux éléments qui me viennent en tête lorsque la question se pose. Premièrement, ça va influencer le style des vins, et ça l'a déjà fait, hein. Et deuxièmement, ça va modifier quelque part la géographie viticole mondiale. Il est clair qu'il y a des vignobles dont on parlait pas, ou dont on parlait en se moquant un petit peu. En Angleterre, ils font du vin, il paraît, tout le monde se marrait. Mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a 500 vignerons en Angleterre, c'est sûrement le vignoble qui s'est le plus développé ces dernières années. Il faut savoir que des champenois ont acheté des vignes, des terrains pour planter de la vigne en Angleterre.
C'est le même sol, hein.
Et c'est exactement
la clé. Entre les deux, ils ont
gagné un degré. Et c'est le même sol. Donc, du coup, c'est légitime. On peut y faire sûrement, et on y fera demain encore plus qu'aujourd'hui, un vin de qualité. Il n'y a pas de raison.
Est-ce que c'est un mouvement général de relocalisation de la production, un peu plus vers le nord ou un peu plus vers l'épaule, si je peux dire ça comme ça?
Exactement. Dans les endroits plus frais.
Vers l'épaule pour le Chili, par exemple.
Oui, pour les
meilleurs descendent vers la Terre de Feu. Pas jusqu'à la Terre de Feu, mais ils vont, c'est leur sud et notre nord.
Alors, exactement. Les régions du monde dans lesquelles ce mouvement est enclenché, dans lesquelles on commence à produire du vin et du vin qui soit du bon vin. Vous avez parlé d'Angleterre, il y a d'autres
alors,
régions.
Dans les extrémités sud, plutôt de la Nouvelle-Zélande, par exemple. Mm-hmm. Et on était plutôt concentré entre les deux îles. Là. Ouais, et là, maintenant, on est plutôt dans la partie
dans
sud,
l'île
du sud. Donc, on va vers le frais, effectivement. Okay. Il y a deux manières. Soit on descend, effectivement, pour chercher de la fraîcheur en latitude, soit on monte en altitude. Et on s'aperçoit, par exemple, de Languedoc-Roussillon, qui est une région dont on parle beaucoup aujourd'hui. Dans certaines régions, peut-être souffrent, mais à la limite, dans ces endroits-là, la vigne a l'habitude un peu de souffrir. Mais les endroits les plus pertinents en termes de qualité sont en altitude. Le secteur du Pic Saint-Loup, le Mont Pérou, les terrasses du Larzac, etc. sont de très beaux exemples de vins qui finissent par trouver un bel équilibre et qui bénéficient. Avec des nuits plus fraîches.
Soit on monte en latitude de actuellement à 1 degré de... Ça fait 200 kilomètres à peu près, si vous voulez, 200 kilomètres vers le nord. Mmh. C'est-à-dire que les côtes du Rhône autour de l'Hermitage sont au niveau du Mâconnais, du sud de la Bourgogne.
Voilà.
Et ça, quand on explique ça donne un repère.
Non, mais c'est vrai, ça donne un repère qui est assez parlant.
C'est vrai de l'ensemble de la végétation, c'est pas vrai juste de la vigne.
Ce qui est intéressant néanmoins de constater, c'est que c'est pas la première fois que ce phénomène, même s'il est accentué, même si on en parle, et pour nous c'est notre actualité, il y a eu des pics glaciaires, des pics de chaleur, etc., qui sont développés, qui ont existé, même depuis 2000 ans, depuis qu'on a à peu près des traces un peu plus tangibles de notre histoire. Et à chaque fois, ça a eu des conséquences sur la viticulture. D'ailleurs, les historiens, ou les climatographes, ou les climatologues, retrouvent à travers la viticulture beaucoup d'informations pour remonter l'histoire du climat. Parce qu'on déclare les vendanges, il y a la date de fameux banc des vendanges, selon la date, selon la durée des vendanges, selon le degré en alcool des vins.
Il y a toute une historique.
Des informations.
Oui.
Exactement.
Là, on a commencé à vendanger le 9 août en Languedoc.
Et c'est très tôt.
Il est 23 dans le Beaujolais, enfin dans des coins.
Oui, bien sûr.
C'est trois semaines, c'est trois semaines de décalage.
Et certains vignobles, je pense à l'Angleterre dont j'ai parlé, mais peut-être la Belgique aussi, ou des endroits comme ça, dont ça nous était sorti de l'esprit.
Le vin de la Moselle
existe. Exactement. Oui, Moselle, notamment.
Le nord de l'Allemagne,
le massif central, et c'est des grands vignobles. Ces vignobles-là, aujourd'hui, ont une magnifique opportunité de redévelopper la viticulture. J'étais dans les Côtes d'Auvergne.
Et l'île de France.
Il y a quelques jours, exactement. Alors, l'île de France, il y a eu beaucoup de constructions, donc c'est un peu l'urbanisme qui a mangé la terre.
Du blé.
Mais néanmoins, il y a encore des potentiels. Le long de la Marne, par exemple, en allant vers le Champagne, il n'y a pas de raison non plus.
Ça veut dire que la viticulture française n'est pas terminée, et même si on fait moins de vin à Bordeaux, on en fera du bon ailleurs. C'est ça que ça veut dire?
Il y aura un bon ailleurs et un vin qui sera différent, qui sera sûrement beaucoup plus cher. Le vin de 2030, 2050, il sera pas du tout à 10, 15 euros la bouteille. Il y en aura moins. Mais il sera de qualité, au moins espérons-le.
On peut le souhaiter en tout cas.
S'il le souhaite.
Est-ce qu'il y a des lieux de production et de viticulture qui sont inattendus, on va dire exotiques? Moi j'avais entendu parler à une certaine époque de la rive nord du Saint-Laurent, qui le jour où les températures remonteront sera particulièrement bien exposée. C'est vrai ça?
C'est plutôt autour des Grands Lacs. Du Niagara.
Ça existe déjà. Le secteur de Niagara Falls Vineyard, ça existe. Avec notamment ce qu'on appelle les vins de glace, les vins issus de raisins qui sont cryoconcentrés par le gel naturel. Et là, pour le coup, le gel est un bienfait, mais il arrive au moment de la maturité des raisins.
Là-dessus.
Et non pas sur la partie, enfin sur la période avancée. Il y a déjà d'ailleurs une association de vignerons québécois qui existe et qui c'est là aussi qui se développe. Alors dans les vins exotiques que j'ai eu l'occasion de goûter ces dernières années, on fait du vin à Tahiti par exemple. Les gens ne le savent pas toujours, mais sur l'atoll de Rangiroa, il y a un vignoble qui s'est développé. Ce sont des Carignans. Et franchement, j'en ai goûté quelques fois et on peut saluer l'audace de ce vigneron qui s'appelle Dominique Roy.
Ça n'a peut-être pas des quantités énormes.
Oui, exactement. Mais ils en ont davantage parce qu'ils font deux récoltes par an.
Ah oui.
Parce que c'est aussi ça dans certains endroits.
Oui.
Au Brésil, où j'ai gagné le concours de meilleur sommelier du monde il y a 25 ans, il y a aussi des vignobles qui se développent aujourd'hui, notamment dans les endroits Alors c'est pas l'endroit c'est pas le pays le plus frais du monde, hein.
Non.
Mais il y a des endroits suffisamment intéressants pour y planter, pour y cultiver la vigne. Un grand pays dont on parle, c'est alors la Chine, bien sûr. Oui, c'est le pays qui s'est le plus développé en matière de viticulture ces dernières années. Mais l'Inde, par exemple, très gros pays aussi. Et deux parties, une partie au nord, mais surtout la partie sud, du côté de Bangalore, où sur les plateaux qui sont à 1000 mètres d'altitude, on a développé des vignobles de qualité.
Alors, est-ce que ça veut dire?
C'est l'Argentine, hein, l'Argentine et les États-Unis.
Hein. Alors, est-ce que ça veut dire que peut-être en termes de production, ça va être difficile de maintenir le niveau de production pour la viticulture française, mais peut-être en termes d'exportation de savoir-faire, là il y a une carte à jouer.
C'est ce qui se passe, hein, tous nos grands sorciers, les grands œnologues, ils sont en Chine.
Les fine winemakers, qui voyagent
dans le monde entier. Ils sont en Argentine, ils sont en Afrique du Sud, ils sont dans des pays qui n'ont pas peur de s'adapter. L'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est des gens, il faut changer, ben on va changer. Ici, ils ont à la fois les moyens et ils y vont.
Oui, le côté nature un peu dur de l'hémisphère sud nous oblige à nous adapter, c'est ça?
Sinon, on a l'INAO. L'INAO, c'est un peu compliqué. On est un peu dans le 19e siècle, même si ça n'existait pas au 19e siècle, mais ils sont toujours là. Et pour les faire bouger... C'est pas facile.
Voilà. Alors c'est aussi une des qualités, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport aux choses et pas juste être dans l'action et la réaction. Mais effectivement, il y a un côté un peu statique dans l'INAO. Ça évolue pas mal. Hein. Moi, qui suis membre du comité national de l'INAO, donc je siège à l'INAO, je constate qu'effectivement, il y a une volonté aujourd'hui d'aller plus loin, sûrement plus vite, tout en prenant le temps de la réflexion quand même.
Les Bordelais ont demandé à tester des nouveaux cépages. Exactement. Et ça a été accepté.
Oui, on parlait récemment.
En test.
Et ça peut rentrer même dans les appellations à hauteur de 10%, ce qui est une vraie nouveauté.
C'est une grosse
révolution.
Une vraie révolution.
Ouverture d'esprit, exactement, dans la viticulture française.
Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une mondialisation de la production et qu'il faut être présent quand on est un gros vigneron, si je peux dire ça comme ça, sur tous les continents? Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui, Yves Lers?
Bah, vous savez, les Français, ils sont très présents, hein, un marchand de pastis.
Pas juste en termes de savoir-faire, mais de possession des terres.
Possession, Pierre Noriguère est un des plus gros propriétaires entre autres, on parlait de la Nouvelle-Zélande. Ils sont propriétaires d'une bonne partie de la Nouvelle-Zélande.
Entre autres et tout. Il y a des bons Français.
En Argentine, ils sont très présents.
LVMH également, qui est propriétaire sur quasiment tous les continents. Il y a quelques groupes français qui sont effectivement.
Et puis la Chine,
exactement.
Vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Est-ce que des conséquences sur les modes de production? Il y a certaines régions qui vont devoir changer peut-être de cépages traditionnels. Moi, je sais pas. Par exemple, le Syrah dans la vallée du Rhône, le Poulsard dans le Jura.
Voilà, il
a encore pas mal de temps devant lui.
Oui, il a encore
la Syrah, par contre, elle peut remonter. Il y a des cépages qui peuvent
Par
compenser.
Exemple, dans le Beaujolais, c'est quand même aujourd'hui, dans le monde entier, quasiment le Beaujolais nouveau, et on salue nos amis du Beaujolais, avec un très joli millésime 2017 pour le coup, il y a des essais de Syrah, justement. Mais on est sur des croupes granitiques qui sont les mêmes quasiment qu'en Côte-Rôtie ou dans la partie plus au sud. Sauf qu'on est un peu plus au nord.
Est-ce que d'ores et déjà, dans la production actuelle, le changement climatique et la façon de travailler, peut-être 3 semaines en avance, ou la façon de cultiver la vigne, est-ce que ça change le goût du vin? Parce qu'on essaye d'être très traditionnel, vous en avez parlé avec les AOP et l'INAO. Est-ce que ça change, malgré tout, le goût du vin, Philippe Forbrach?
Ça a tendance à changer. Après, il y a plein de choses qui changent le goût du vin, mais le principal impact, c'est la montée du niveau d'alcool dans les vins.
Du sucre.
Indéniablement, les raisins sont plus sucrés et la production d'alcool est plus importante. Avant, moi je me souviens, quand j'étais gamin, quand on achetait du vin à 10 degrés, c'était le vin quotidien, et puis quand on avait du 11,5 ou du 12, alors les 12, c'est les très grands jour, c'était le vin du dimanche, la fête, etc. Aujourd'hui, à 12 degrés, c'est un vin léger.
Entre 13 et 15 degrés. Le risque, c'est le déséquilibre. Trop de degrés, pas assez d'acidité. Oui, un vin déséquilibré, c'est 2003.
Voilà,
il se conserve pas bien.
C'est pas évident. Ouais. Alors c'est à la fois l'équilibre, vous avez raison, et en même temps, c'est quand même cette notion d'alcool qui fait qu'on boit moins. Et quand moi j'ai un restaurant, dont vous en parlez tout à l'heure, le bistrot du Sommelier, quand les gens viennent déjeuner, s'ils prennent deux verres à 15 degrés, c'est pas le même effet que s'ils prennent deux verres à 12.
Et puis ils font pas leur après-midi au travail.
Ils s'en rendent compte.
Non, ils s'en rendent compte. Les gens ils disent, ouais, il fait chaud chez vous, mais il fait chaud. Et nous avons un accueil chaleureux.
Voilà. Écoutez, on passera prochainement vous visiter. Merci Philippe Forbrac, merci également à Yves Lers d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. On a appris des tas de choses. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arthur Tossou, Valentin Vaner, Emmanuel Sevin. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Consommez avec modération.